Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous avons travaillé sur la question des signes du royaume de Dieu, l'exorcisme. Dans les passages où nous sommes du catéchisme de l'Église catholique, là, donc dans 540 à 550, en gros, il est question donc des signes du royaume de Dieu, miracles, prodiges et signes. Nous l'avons évoqué, mais est-ce que nous pouvons aller plus loin quand même sur la nature des miracles et finalement leurs effets, j'allais dire, pour nous aujourd'hui, jusqu'à nous aujourd'hui, sur la vie de l'Église? Je ne sais pas comment il faudrait le dire. Tu disais que les signes que Jésus fait ont forcément un sens. Il n'y a pas de miracle comme ça à titre gratuit, j'ai envie de dire, qui serait, c'est pas entre guillemets, hein, de la poudre aux yeux. Ça a une conséquence. Est-ce que nous pouvons regarder de plus près finalement la nature de ces miracles?
Oui, on distingue en général trois types de miracles. Les miracles quant à la substance, prenons l'exemple de Cana. Jésus transforme l'eau en vin, en prophétie en quelque sorte de ce que sera le sacrement de l'Eucharistie sous l'espèce du vin. De même la multiplication des pains, qui elle est davantage le sujet, puisque le sujet ne change pas, et il y a multiplication du sujet. Donc on peut dire qu'il y a des miracles quant à la substance, et c'est vrai que le miracle Eucharistie est un miracle substantiel, puisque ce qui était pain, ce qui était vin, deviennent vraiment le corps et le sang du Christ. Donc, miracle quant à la substance, miracle quant au sujet, il peut y avoir multiplication des sujets, voire même de l'état. Par exemple, quelqu'un est mort, il se relève vivant, il était dans un état cadavérique comme Lazare, et puis il se relève vivant. C'est aussi une prophétie sur ce que sera la résurrection de Jésus, mais d'une nature tout à fait différente, puisque Jésus sera dans un corps glorieux après sa résurrection. Et il n'y a que lui qui l'ait vécu, il n'y en a pas d'autres. Tous les autres qui sont passés de la mort à la vie, comme Lazare, ont été obligés après de remourir une deuxième fois. Donc il y a des miracles quant au sujet qui sont des miracles sur l'état de santé en quelque sorte du sujet. Et puis il y a des miracles quant au mode, quant au temps par exemple. Il y a des choses tout à fait étonnantes comme le miracle que Jésus fait sur la mer, où il y a violence du temps et d'un seul coup apaisement de la tempête. Et c'est sûr que certains de ces miracles sont objets de la foi, comme le miracle eucharistique ou la résurrection de Jésus d'entre les morts, c'est vraiment objet de la foi, et d'autres sont seulement des confortations de la foi. L'apaisement des eaux sur le lac de Tibériade, ça a aidé les apôtres autour de lui à se dire, ben, dans le fond, il y a quelqu'un qui est plus grand, qui commande même au vent et à la mer. Ne serait-il pas plus qu'un homme? Donc il y a vraiment une question sur son identité. Donc il conforte la foi des apôtres qui commençaient déjà à adhérer à la vérité de l'identité de Jésus. Donc il faut les distinguer un peu sous ces deux angles-là, et on comprend que, bien sûr, ces miracles ont aidé le petit corps de ceux qui ont suivi Jésus, les suiveurs de Jésus, à tout à coup adhérer à lui, adhérer à son message, à la vérité de son message et à ce qu'il était, à ce qu'il faisait. Ces miracles ont eu un rôle donc de confortation de la foi avant d'en arriver à vraiment être objet de la foi le jour où, miracle des miracles, Jésus ressuscitera d'entre les morts et qui fondera la foi apostolique.
Donc, par exemple, si nous prenons ces deux textes se suivent chez Saint Jean, hein, donc si je ne me trompe, il y a la multiplication des pains, qui va être suivie par Jésus qui rejoint les disciples sur la mer, à un moment où la mer est agitée par ailleurs. Le miracle de la multiplication des pains est donc tel que tu le présentes, un miracle quant à la substance.
Alors non, seulement je le dis quand il y a vraiment un changement de substance. La multiplication des pains, c'est la multiplication du sujet. Un pain devient 2, 3, 4. Donc c'est quand il y a un changement de substance. Par exemple, quand l'eau se transforme en vin. Et d'ailleurs, chimiquement, on est bien obligé de constater qu'il faut des atomes de carbone en plus, parce que l'eau H2O et l'alcool, il faut au moins CH quelque chose.
Oui, oui, oui. Donc c'est transformation du sujet. Et donc, oui. Et tu expliquais que pour nous, c'est déjà effectivement, ça nous renvoie à tous ces signes, tous ces sacrements où il y a l'expérience de la... Non, alors la préfiguration de la résurrection, de ce que Dieu peut faire à la résurrection. Et le Jésus qui vient sur les eaux, donc, va être... Jésus manifeste qu'il est plus qu'un homme, Jésus manifeste qu'il est Dieu, que la divinité est venue toucher l'expérience humaine qui est la nôtre.
Oui, c'est ça, son sujet, le sujet qu'est Jésus-Christ, se manifeste comme puissant sur les eaux. Et normalement, un sujet coule quand il est dans l'eau, comme Pierre en a fait l'expérience. Il a marché quelques instants, puis il a coulé. Enfin, il en a fait quand même l'expérience. Donc, c'est un miracle autour du sujet. Le sujet lévite ou coule. Et c'est vrai qu'on a beaucoup dans l'histoire de l'Église des cas de lévitation. Nos maîtres de l'ordre bien connus, le révérend père Hyacinthe Cormier, eh bien, a souvent été vu en lévitation. Et donc, c'est un miracle qui concerne le sujet, mais il n'y a pas de changement de substance. C'est-à-dire, Cormier reste Cormier.
Oui. Mais donc, c'est pour cela que les disciples dans la barque vont être effrayés. Et que ça ne dure pas longtemps, parce que Jésus va leur dire... Il veut leur montrer qu'il est plus que ce qu'ils pourraient penser qu'il est, mais il veut leur dire, ben n'ayez pas peur, c'est Dieu est venu jusqu'à vous.
Et c'est ça, exactement. Il y a toujours l'aspect de la crainte quand il y a quelque chose qui dépasse la nature humaine, qui dépasse, qui est presque contre nature, parce que quelqu'un qui marche sur les eaux sans couler, c'est presque contre nature. D'ailleurs, saint Thomas, une fois dans le Contrat de Gentilesse, ajoute cette quatrième catégorie de ce qui pourrait être contre nature et qui crée en premier abord le trémane, c'est-à-dire dans le sujet qui voit ce miracle, quelque chose qui le stupéfait au point qu'il ressent une crainte. Alors crainte servile, crainte filiale, c'est pas facile de passer, de voir exactement ce qui se passe dans le cœur des gens, mais c'est vrai que la crainte servile et la première réaction que l'on a par rapport à un phénomène qui nous dépasse, un tremblement de terre, une maison qui s'effondre, quelque chose de terrible. Dans le fond, il y a une espèce de crainte d'abord qui s'installe. Et Jésus leur redonne la confiance. Ne craignez pas. Et à ce moment-là, quand Saint-Pierre se jette à l'eau, il coule, bien sûr, mais il y a eu quand même un premier moment de miracle pour lui où il marche sur les eaux et puis à un moment il crie Seigneur sauve-moi, curie sozomai, c'est-à-dire c'est là où il s'appuie sur une foi qui non seulement est une confiance dans Jésus, mais vraiment une foi qu'il est curieux, qu'il est curios, c'est-à-dire qu'il est vraiment le Seigneur qui peut le sauver des eaux.
C'est ça, là où d'une certaine façon, nous pourrions dire que la multiplication des pains pourrait avoir installé les disciples dans la foi, c'est venir les choses qui vont faire du bien à notre à nos intérêts premiers.
Exactement, ils auraient pu très bien dans un premier mouvement un peu trop, je dirais, matérialiste, voir le bienfait seulement d'intérêt, l'intérêt du miracle ou la curiosité. Bon, c'est agréable d'être avec un leader qui fait des miracles parce que dans le fond ça fait venir du monde, ça rend les choses plus faciles, etc. Sans voir que c'était une prophétie en vue de l'Eucharistie, en vue de la signification profonde de ce qu'allait être l'institution de la Sainte Cène. Et donc il fallait aider les apôtres à décanter l'aspect qui aurait pu être compris un peu comme un pouvoir magique à quelque chose de plus profond.
Et, oui. Et donc il nous est important de bien comprendre que finalement les miracles, les premiers, entre guillemets, bénéficiaires des miracles, c'est ce corps des disciples qui suit Jésus, qui va devoir aller plus loin, qui va devoir se laisser envoyer la suite du maître.
Et voilà, c'est l'institution des douze. On sent bien que Jésus a fait ces miracles pour créer autour de lui un petit groupe de fidèles qui va instituer vraiment un moment au cours de son ministère public. Et on va voir l'institution des douze un peu dans la suite des douze tribus d'Israël à qui il va donner un rôle tout à fait extraordinaire, puisqu'il va leur annoncer clairement qu'il jugera plus tard, à la fin des temps, les tribus d'Israël. Donc c'est un rôle eschatologique d'emblée que Jésus assigne à ce petit collège de douze et à qui il va donner un rôle extraordinaire, puisqu'il va leur donner les clés du royaume. Le numéro 551 du catéchisme le dit. Dès le début de sa vie publique, Jésus choisit des hommes au nombre de douze pour être avec lui et pour participer à sa mission. Il leur donne part à son autorité et les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir. C'est-à-dire poursuivre, dans le fond, là, déjà, les signes et les miracles que Jésus opérait en vue de cette annonce que le royaume de Dieu est au milieu d'eux, que le royaume vient. Ils restent pour toujours associés au royaume du Christ, car celui-ci dirige par eux l'Église. Donc on comprend bien que c'est bien en vue de la fondation de l'Église que Jésus réalise tout cela. Ce n'est pas purement pour jeter de la poudre aux yeux, c'est vraiment pour l'institution de cette unique Église du Christ apostolique, qui repose donc sur la succession apostolique et qui est la prolongation de l'envoi que Jésus a reçu de son Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoyais toujours. Cette double dimension dans la signification de apostolique.
Merci bien, frère Édouard.